Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour Julia Vignali, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, l'émission Feel Good qui rend votre quotidien plus doux. C'est tous les jours de la semaine jusqu'à midi. Et Mélanie, quel est notre programme de ce vendredi?
Alors je vais commencer par la fin de l'émission. Comme toujours, à 11h45, il y aura les meilleurs conseils des bienfaiteurs d'Europe 1. On commencera avec Hakim Benzakar, notre coach sportif. Aujourd'hui, il ne devrait pas nous faire trop mal, il va simplement nous apprendre à bien chauffer nos muscles. D'ailleurs, l'échauffement avant le sport en lui-même est-il toujours indispensable? Il nous expliquera ça. Et puis, comme tous les vendredis, notre cuisinière dont l'ingrédient favori est la joie sera avec nous, Perla Servan-Schreiber. Pas de recette aujourd'hui, mais elle va regarder dans nos placards pour voir si les ustensiles indispensables pour cuisiner sont bien là. Et vous verrez, pour être un pro au fourneau, pas besoin d'investir des millions. Mais avant tout ça, Julia, par quoi on va démarrer?
Eh bien, on va commencer par un sujet de santé qui concerne des millions de Français. La migraine, les céphalées. On a décidé de vous montrer comment ne plus vous prendre la tête. Et la migraine, eh bien, ça touche aussi bien les petits que les grands. Cet orage dans le crâne, une personne sur six le subit tous les jours et c'est un véritable handicap. Alors comment soulager efficacement la douleur? Et puis saviez-vous que de nouveaux médicaments suscitent beaucoup d'espoir? On va en parler ce matin et ce sera d'ailleurs un dossier en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Santé dont la rédactrice en chef Aline Richard sera avec nous en plateau. Et puis nous recevrons également le docteur Jérôme Maoué, médecin neurologue à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et bien voilà, bien fait pour vous, sans prise de tête, c'est parti.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 et comme tous les matins, Mélanie et moi, on va vous offrir une heure de soins, de conseils très utiles, surtout si, comme des millions de Français, la migraine, les maux de tête vous pourrissent la vie. Et vous, cher Clément Lanoux, on attend votre point de vue, ça vous arrive, vous, de vous prendre la tête?
Alors, pas me prendre la tête, oui, mais j'ai pas du tout de migraine. Je suis ravi d'entendre d'ailleurs les stats. Un Français sur six, on est cinq dans le studio.
Non, moi non.
Non, ça va?
Non.
Bon, ben la prochaine personne qui rentre arrivera et je suis désolé, ce sera donc un migraineux. Je sais que ça touche beaucoup de personnes, je sais que c'est compliqué. Moi, j'en fais pas partie. Pour moi, la migraine n'était qu'un moyen de contraception, justement, très, très utile. J'ai décidé de vous aider. Alors, je suis pas du tout médecin, moi. Je vais vous aider. J'ai trois petits conseils pour ne plus avoir mal. Ce que moi, je fais dans mon entourage, quand quelqu'un a mal à la tête, c'est ça marche.
C'est le premier, scientifiquement avéré. Hein.
C'est du fait maison. Vous me dites peut-être que ça marche, peut-être pas. Premier truc, baume du tigre sur les tempes. Alors là, vous me dites qu'il faut avoir un tigre
à
proximité.
Mon mari fait ça, mais je sais pas.
Et alors?
Bah, il trouve que ça lui fait du bien, mais bon.
Ça fonctionne, voilà. Deuxième truc, mâcher un crayon. Alors, on a l'air con, mais d'après une étude anglaise, alors ça c'est vrai, j'ai cherché, mâcher un crayon permettrait de détendre le muscle et les articulations des tempes et de la mandibule qui se contracte pendant la crise.
Ouais, apparemment, ça fait du bien.
On essaiera. Troisième chose, vous faites le poirier pendant 30 minutes en chantant du Jodassin. Ça c'est une étude qui reste évidemment à confirmer. Pour l'instant, on n'est que très peu à être au courant. Il y a moi, les services secrets, les complotistes et puis la classe de CM2 de Madame Gatineau que j'embrasse. Bon, ça c'est si vous aviez des problèmes de migraine. Okay. Si, comme moi, vous n'en souffrez pas et que vous voulez être à fond dans cette émission, voici à l'inverse trois moyens d'avoir mal à la tête dans quelques minutes ou quelques heures. Comment? Alors, premier truc, si vous êtes au travail, là, ce vendredi matin, vous déclenchez l'alerte incendie de la boîte et vous restez à côté de l'enceinte. Pendant 30 minutes, vous verrez, la petite migraine commencera à monter.
Tout doucement,
sinon,
tranquillement.
Voilà, si vous êtes à la maison, vous appelez un ami, si possible, votre ami le plus dépressif, voilà, et vous lui dites, alors toi, comment ça va? Raconte-moi.
Et là,
vous
c'est
l'écoutez
foutu.
30 minutes et là, normalement, vous terminerez avec la migraine. Et puis, dernière petite technique, si vous avez des enfants et que vous avez un peu de route, vous cachez le doudou, voilà,
et puis
vous faites deux heures de route, vous allez voir les... Doudou lapin, tout ça. Normalement, au bout de 30 minutes, vous aurez une migraine. Et là,
au bout de 10, hein,
10 secondes, voilà. Et là, vous pourrez écouter pleinement cette émission et prendre tous nos bons conseils.
Merci beaucoup, Clément Lanoux, pour cette chronique humoristique, bien sûr. Je précise, quoique, il y avait peut-être des petites choses vraies. On verra avec le docteur dans un instant. On va rentrer dans le vif du sujet. Migraine, maux de tête. Et si on arrêtait de se prendre la tête, c'est un dossier que nous traitons aujourd'hui en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Santé, dont vous êtes rédactrice en chef. Aline Richard, bonjour.
Bonjour.
Alors avec nous aussi ce matin, le docteur Jérôme Maoué, bonjour à vous aussi.
Bonjour à tous.
Vous êtes neurologue à Paris. Alors Aline Richard, je commence avec vous, un dossier extrêmement complet hein, dans ce dossier du Figaro Santé sur les maux de tête. Pourquoi ce sujet? Expliquez-nous à quel point peut-être d'ailleurs c'est un calvaire pour les Français.
Alors c'est un calvaire, bon, pas pour tous les maux de tête, hein, quand on va évidemment détailler au cours de l'émission qu'est-ce qui est problématique pour la vie quotidienne, pour le travail, etc., etc. Et ce qui est un petit peu moins problématique. Mais ce qu'on a voulu, nous, au Figaro Santé, c'est en fait, y a une espèce de banalisation, finalement. Hein. T'as mal à la tête, c'est pas très grave. Et en fait, non seulement il y a des gens pour qui, on vient de le dire, c'est un calvaire, mais même, il n'y a pas de raison de banaliser une douleur. Et donc, on a voulu faire vraiment le point de la façon la plus complète possible.
Docteur, on va peut-être déjà commencer par définir les choses pour commencer. Le mal de tête, la migraine, en fait, c'est un peu fourre-tout. En réalité, on ne devrait pas dire la migraine, c'est ça, mais les migraines, pourquoi ?
En réalité, on utilise très souvent le terme migraine à tort et à travers pour parler d'un mal de tête. En l'occurrence, il existe plus de 200 sortes de maux de tête et la migraine en est un parmi les 200 avec des critères bien précis et qui est une véritable maladie et qui se caractérise par des maux de tête avec des nausées, avec la lumière, la gêne à la lumière, etc. Et ce n'est pas le mal de tête qu'on a quand on a les enfants qui crient dans la voiture.
C'est ça. C'est justement, moi, ce mal de tête que j'ai parfois, moi je ne crois pas avoir de migraine, mais peut-être vous allez me dire le contraire, mais parfois quand la journée a été très intense, qu'on a enchaîné beaucoup de réunions, qu'on a eu beaucoup d'écrans, j'ai la tête lourde, j'ai mal à la nuque, c'est quoi ça?
Alors ça, c'est ce qu'on appelle
la céphalée. Je prends l'air, ça va mieux après. Hein.
Ça, c'est ce qu'on appelle la céphalée de tension. Mmh. Et ça mélange la tension nerveuse, la tension musculaire et toute notre incompétence à la comprendre, parce que ça reste quand même difficile à comprendre. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a presque tous à un moment, mais qui devient handicapant quand ça devient trop fréquent et trop régulier.
Ça vous arrive souvent, Mélanie?
Non, mais je ne prends même pas de médicaments. J'ai remarqué un bol d'air et ça va mieux, en fait.
Hein, si donc, c'est une forme légère, ouais, et en effet, c'est vrai que s'aérer, arrêter de se concentrer sur son ordinateur permet d'améliorer les choses. Mais malheureusement, parfois, c'est plus handicapant.
Ça passe pas, bien sûr. Aline, on entend souvent que les maux de tête, c'est une maladie de bonne femme, entre guillemets. C'est désagréable
alors,
d'entendre ça, c'est quoi la réalité?
C'est l'idée reçue la plus sexiste du monde. Voilà. Alors, pour être précis, puisqu'on se doit d'être précis dans ces cas-là, c'est faux. C'est faux parce qu'il faut savoir qu'un tiers des migraineux sont des hommes.
Oui, mais alors, ça laisse deux tiers de bonnes femmes,
comme on dit. Alors, ça laisse deux tiers de bonnes femmes, comme on dit. Et ça s'explique de façon très rigoureuse. Avant la puberté, c'est la parité. Il y a autant de petits garçons que de petites filles qui peuvent souffrir de migraines. Mmh. Après la puberté, il y a les hormones féminines qui rentrent en jeu. Et en fait, on le définira probablement mieux tout à l'heure, mais la migraine, c'est quoi? C'est des neurones qui sont complètement excités d'une certaine façon, et ces hormones en fait renforcent cette excitation.
C'est pour ça que les femmes sont surreprésentées, et peut-être aussi à la
tout
ménopause,
à
docteur, non?
Et à la ménopause, en fait, une fois que la ménopause est bien installée, il y en a peut-être un peu moins, mais par contre, les fluctuations hormonales autour de la ménopause sont un facteur qui déstabilise beaucoup la migraine.
D'accord. D'ailleurs, docteur, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des causes cérébrales, physiques, biologiques, une anomalie, je ne sais pas, dans le cerveau des migraineux, on a une idée aujourd'hui?
Ah oui, donc en expérimental, si on veut enregistrer le fonctionnement du cerveau d'un migraineux, et ben on voit qu'il y a des anomalies et donc le cerveau est anormalement et plus instable que celui de quelqu'un d'autre. Moi, quand je travaillais à Boston, on avait des souris migraineuses, des souris non migraineuses.
Elles vous l'ont raconté, elles vous disaient qu'elles avaient mal à la tête.
Et en fait, elles avaient...
Sérieusement, comment on sait qu'une souris a mal à la tête?
On leur avait mis le gène d'une migraine très particulière qui est la migraine hémiplégique familiale, et ce qui permet d'étudier la migraine chez les souris.
Mais c'est génétique, oui, parce que là vous parliez de souris, mais je ne sais pas si ma mère a été très migraineuse ou est très migraineuse, je le saurais, j'ai plus de risque de l'être.
Il y a une composante génétique, mais qui reste encore mal comprise. Et en fait, pour le moment, il y a 123 gènes de susceptibilité. Et on imagine bien qu'on a plus de risques de l'avoir si on a 42 gènes que 21 ou 22. Mais pour le moment, on ne fait pas encore ces tests en pratique courante.
Et dites-moi, docteur, c'est qui le migraineux typique? Il est dans quelle tranche d'âge en particulier? Je crois que les enfants également sont concernés, non?
Ça peut venir à tout âge. C'est vrai que c'est un peu plus dans l'âge jeune, 20, 30, 40, et plus encore chez la femme. Mais les hommes peuvent être touchés, comme on vient de le dire. Et puis les enfants, les personnes plus âgées.
À partir de quel âge les gamins, ils peuvent avoir des migraines?
Mais les enfants, en fait, c'est souvent des formes très digestives. Et donc, c'est ce qu'on étiquetait avant de crise de foie, crise d'acétone. Les enfants qui sont tout pâles
et
qui vomissent.
Ils ont pas mal à la tête, ils ont mal au ventre.
Voilà, exactement. Ah.
Mais c'est quand même dans la tête qu'il y a un truc qui dysfonctionne.
Exactement, le dysfonctionnement et au niveau du cerveau.
Et comment on sait si c'est ça ou la non-envie d'aller à l'école? Parce que je vous avoue que moi, j'ai mal au ventre, je l'ai régulièrement.
Ça, c'est vrai que j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de ça.
Et dites-moi, si j'ai jamais eu de migraine à 40 ans de ma vie, pas une migraine, est-ce que je peux encore en avoir?
la probabilité est faible, mais ça peut arriver, c'est extrêmement variable, c'est quand on est soumis à des changements, parfois les changements hormonaux. On peut imaginer qu'une grossesse, au décours d'une grossesse, ça peut venir.
Ça ne peut pas lui arriver, ça. Oh, la saloperie. Il ne me reste plus que la ménopause maintenant. Ça va peut-être venir.
Très bien. Bah, allez, vous restez avec nous tous les deux. On met la migraine, les maux de tête au tapis ce matin. Vous qui nous écoutez sur Europe 1, vous faites peut-être partie de ces millions de Français handicapés par ces maux de crâne. Alors surtout, restez avec nous car on va bien sûr discuter des solutions efficaces dans un instant.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans votre émission Feel Good Mieux Vivre, on vous propose aujourd'hui d'en finir avec le mal de crâne et les migraines, les vraies, les lancinantes, celles qui peuvent même vous empêcher de travailler ou d'aller en cours. Alors sur Europe 1, on parle des solutions à ce mal grâce au docteur Jérôme Maouet, neurologue à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et nous sommes également en présence d'Aline Richard, rédactrice en chef du Figaro Santé, notre partenaire aujourd'hui. Alors Aline, un mal de tête, franchement on en a tous eu, un cachet, un bol d'air comme Mélanie et ça passe. Mais quand on souffre de
c'est vrai... moi le bol d'air ?
Non, oui, c'est vous. Vous êtes aussi mon bol d'air. Mais c'est vrai que quand on souffre de vraies migraines chroniques, là, on parle de véritables handicaps. Non, c'est quoi les répercussions ?
En fait, ça répercute effectivement sur toute la vie, c'est-à-dire chez soi, au travail, à l'école. On est obligé de restreindre ses activités de peur d'avoir une crise, puisqu'il y a certains éléments qui la déclenchent. Donc, on vit moins intensément. Et puis quand vient la crise, c'est obligatoirement du repos, de l'obscurité, de l'isolement. Donc on peut vraiment parler de handicap.
Alors justement, on comprend bien quand on écoute aussi les gens qui sont concernés par ce problème. Pour nous parler de migraine, nous sommes rejoints en ligne par Sandrine, une ancienne migraineuse. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour.
Alors vous avez commencé à faire des migraines très très fortes à l'âge de 40 ans. Expliquez-nous vraiment concrètement comment étaient les symptômes, comment ça se manifestait chez vous.
Alors chez moi, c'était plutôt des symptômes nocturnes, c'est-à-dire que j'avais des migraines la nuit. Mm-hmm. Donc je devais prendre un médicament pour calmer la crise, ça durait à peu près 2-3 heures. Et ça se produisait entre 10 et 14 jours, voire plus par mois.
Wow. Oh là, c'est énorme. Et qu'est-ce que vous preniez comme traitement à l'époque et est-ce que ça fonctionnait? Alors, surtout
bah non, justement, j'ai essayé à peu près une dizaine de traitements de fond qui sont allés du Nocertone, au Laroxil, Lavlocardil, Neurontin, Cymbalta, Isoptine, Famigran.
Bon, pour nos auditeurs, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on comprend que vous avez testé de nombreuses molécules.
Et ça ne marchait pas?
Non, qui marchait pas. Donc en fait, j'ai été soulagée simplement par la prise de triptan pour calmer la crise, mais ça prenait entre 2 et 3 heures, la nuit principalement. Donc,
et ça vous gâchait la vie, non? C'est horrible.
Pas complètement, beaucoup de fatigue, je m'économisais les week-ends, enfin dès que je pouvais, c'est-à-dire plus de sorties, pas de sorties le soir, j'essayais d'avoir... de dormir aux mêmes horaires. Enfin je m'économisais, en fait.
Et des conséquences professionnelles aussi. Hein.
Mais oui, comment vous faisiez avec votre travail, Sandrine?
Bah, écoutez, j'ai tenu au mieux jusqu'au moment où j'ai dû arrêter, parce que ça devenait complètement incompatible.
Et alors, qu'est-ce qui vous a sauvé, justement? Vous avez eu des injections, on va détailler nous les choses après, mais ça a changé votre vie?
Ah bah complètement. J'ai récupéré ma vie. J'ai récupéré une vie normale, de travail, de sortie, de tout. Une vie normale. Hein,
grâce aux injections.
Injections mensuelles. Tout à fait.
Ah bah
et ça a été une révolution. À la première prise, les effets sont arrivés très, très vite, très rapidement.
Mais quelle bonne nouvelle. Merci Sandrine. Docteur Maouet, les injections dont elle parle, on va peut-être détailler les choses après, mais elle parle des traitements assez novateurs, là, justement, qui sont disponibles en hospitalier, pour le coup, c'est ça?
Non, c'est des traitements de fond. D'accord. Qui existent, donc qui ont pour but d'espacer les crises, faire qu'elles viennent moins souvent, mais ils sont disponibles, non, en officine, mais malheureusement pas remboursés, on y reviendra.
J'avais juste un message aussi à passer à nos auditeurs ou auditrices qui sont concernés par les migraines. Je crois que vous insistez sur le fait qu'il n'est pas inintéressant d'adhérer à une association.
Oui, c'est vrai que y a l'association La Voix des Migraineux qui permet de partager un petit peu la souffrance, le vécu de la migraine, même s'il faut se souvenir qu'il y a des formes extrêmement variables et que parfois sur ces sites, on a tendance à voir des gens qui ont des formes extrêmement invalidantes et que heureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde et surtout, ce n'est pas le cas au fil du temps, ça peut s'améliorer.
D'ailleurs, docteur, vous le dites, on devrait parler des maux de tête, il y en a de différents, avec des symptômes variés, mais je crois quand même qu'il y a des maux de crâne qu'il faut distinguer, qui sont de véritables drapeaux rouges.
Oui, c'est vrai que parmi les 200 types de maux de tête, il y en a qui peuvent être annonciateurs d'autres symptômes plus graves. Et donc, quand c'est une douleur qui est inhabituelle, surtout si elle est extrêmement intense brutalement, il faut en parler avec son médecin traitant. On imagine bien qu'une douleur qui dure depuis 10 ans, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui vient d'apparaître, quelque chose qui vient d'apparaître. Et si je prends un exemple, vous avez mal à la tête, perte de goût et d'odorat, c'est peut-être le Covid. Ce n'est pas la migraine, bien sûr.
Mais l'AVC, la méningite, c'est à ça que vous pensez quand vous dites drapeau rouge,
voilà,
quelque chose de très brutal.
Par exemple,
et très...
une douleur tout à fait inhabituelle, très intense avec de la fièvre et pas d'autres symptômes, ça peut en effet parfois être une grippe, mais ça peut être aussi parfois une méningite. Consultez votre médecin pour ça.
Je reviens sur la migraine. À partir de combien de migraines, je ne sais pas, par semaine, par mois, depuis combien de temps on a ça, on considère vraiment qu'on est un migraineux et qu'il faut consulter?
Alors, qu'on est un migraineux, c'est quand c'est répété, qu'il y a au moins 5 crises. Donc ça, on peut l'être assez vite avec tous des critères bien prédéfinis.
5 crises par mois.
Donc, 5 crises dans la vie. Vous avez eu 5 crises où vous êtes bloqué au lit avec des nausées, des vomissements, la lumière qui gêne, le bruit qui gêne.
Mais c'est tout le monde, ça, non ?
Si vous êtes bloqué pendant 2 jours ou 3 jours au lit avec ces symptômes-là, sans que ce ne soit une grippe, sans que ce ne soit autre chose, ça, c'est pas tout le monde. Mais après, ça devient handicapant et il faut consulter si jamais ça a un retentissement sur votre vie de tous les jours. Si ça vous empêche d'aller voir des amis, si ça vous empêche d'aller travailler. Alors, j'ai pas de chiffre idéal parce que vous avez des patients qui ont 5 jours par mois mais qui prennent un traitement et le problème est réglé en une heure. Et vous en avez qui ont 3 jours par mois mais où ils les passent les 3 jours au lit. C'est ces patients qui ont 3 jours au lit qui doivent consulter.
Donc, dès qu'on se sent invalidé, enfin qu'on n'arrive plus à aller au boulot ou à sortir, on vient
quand
vous
voir. Quand ça a retentit sur votre vie de tous les jours, il faut voir votre médecin traitant avant
d'abord.
Tout.
Aline, d'ailleurs, dans le Figaro Santé, vous alertez sur les risques et les dangers de l'automédication chez ces patients concernés par les maux de crâne comme ça.
Oui, alors les gens qui souffrent de maux de tête, comme d'ailleurs les gens qui souffrent tout court, ont tendance souvent, malheureusement, à prendre trop d'antidouleurs. Oui, c'est normal, on a mal. Mais le problème, c'est que quand vous prenez trop d'antidouleurs, vous risquez un certain nombre de choses. D'abord, que le produit ne fasse plus autant d'effet qu'il ne faisait. Donc, vous aurez d'ailleurs tendance à augmenter les doses. Donc, ce sera vraiment catastrophique. D'autant plus qu'on sait très bien que les produits antidouleurs, du simple doliprane jusqu'aux opiacés, ça provoque un certain nombre d'effets secondaires et ça abîme le foie, ça abîme le rein.
Il faut faire attention.
Donc, mieux vaut prendre le bon traitement pour la bonne indication tout de suite.
Voilà. Alors, justement, avant de parler de médicaments, de traitements, docteur, est-ce que, quand même, il n'y a pas déjà des règles d'hygiène de vie qu'il faudrait revoir chez certains patients migraineux qui peuvent déjà les aider à améliorer les choses?
Oui, en fait, la migraine, c'est la maladie de l'intolérance au changement, avec un cerveau qui est moins tolérant au changement. Donc, on imagine bien dormir un jour 8 heures, le lendemain 4 heures, c'est pas l'idéal. Donc, si on peut lisser un petit peu ses nuits, si jamais on peut avoir des horaires plus réguliers, c'est très bien. Mais je dis parfois aux patients, on va pas non plus vous envoyer au monastère ou au couvent.
Mais l'alcool, par exemple, plus d'alcool.
Alors, l'alcool peut être un facteur déclenchant, mais c'est sûr que plus on en prend, plus il y a un risque que ce soit un facteur déclenchant. Certains patients, c'est du vin blanc.
La cigarette?
Alors la cigarette, c'est pas bon, je vous dirais pas que c'est bon, mais je peux pas vous dire que ce soit un facteur favorisant énorme de la migraine et que si vous arrêtez le tabac, la migraine va s'arrêter malheureusement.
Aline, j'ai déjà entendu des copines migraineuses qui me disaient qu'en fonction de la météo, si le temps était orageux par exemple, elles avaient plus ou moins de crises. Je crois que vous en dites quelque chose dans le Figaro Santé. Qu'est-ce que la science?
On a fait un petit écho, mais pas plus, parce qu'il y a effectivement des études scientifiques sorties dans des journaux à peu près convenables qui ont dit ça, mais il y en a d'autres qui ont dit exactement le contraire. Donc restons prudents et regardons le ciel.
D'accord. D'ailleurs, dans le Figaro Santé, Aline, vous parlez de céphalée sexuelle.
Ah, ça ne m'étonne pas que vous alliez sur ça.
Bah oui, c'est quoi ça? C'est quand on se sert mal de tête pour dire je ne veux pas faire
l'amour? Non, pas du tout. Ça. Ah non, c'est absolument pas ça.
Il y a,
semble-t-il, dans la littérature scientifique, des cas, des descriptions de personnes qui font l'amour et au moment de l'orgasme, qui ont un mal de tête absolument épouvantable.
Des hommes, je crois, en particulier.
Non.
Donc ça arrive, les personnes peuvent se retrouver aux urgences et c'est la panique parce que ça peut être aussi un AVC ou je ne sais pas trop quoi. Et on ne sait pas trop, mais ça arrive, il y a des cas et ça peut disparaître aussi très simplement
c'est
du jour au lendemain.
C'est fréquent ça, docteur?
Alors nous, on est centre de référence pour ça, on connaît ça très bien. Donc en effet, dans certains cas, ça peut être des spasmes au niveau des artères.
Ah, les pauvres.
Et donc ça justifie de consulter en urgence si on a ces céphalées sexuelles récentes. Oui.
Céphalées. Et alors, est-ce qu'il paraît que quand on fait l'amour, ça peut faire passer les maux de crâne, c'est vrai ça?
Alors, ou pas
c'est...
n'importe lesquels, hein, mais en l'occurrence, si jamais on a une grosse crise de migraine avec des nausées, des vomissements, une gêne au bruit à la lumière, on n'a pas envie,
de faire l'amour.
Et ça marchera pas. Hein.
D'accord, il y a un autre truc du quotidien qu'on entend parfois, c'est que le café ferait du bien aux maux de tête. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Alors, c'est vrai et c'est faux. En fait, le café, parfois, quand on a une crise de migraine, un café serré peut aider, parce que la caféine aide. Mais par contre, beaucoup de café et trop de café, ça déstabilise la migraine et ça peut encore l'aggraver.
Docteur, est-ce que la migraine, ce ne serait pas tout de même, attention, je mets des pincettes, une maladie psychologique? J'ai l'impression que certains deviennent carrément parano, font des fixettes.
Un peu agressif même.
Ouais.
Hein.
Mmh. Ouais. Est-ce que...
alors, non, c'est pas la cause n'est pas psychologique. Mmh. Hein, et je peux vous dire, si vous avez mal à la tête 10-15 jours sur le mois,
ça
par contre,
dingue.
Ça peut retentir sur votre morale. Mais quand
bien,
on avait les souris, quand j'étais à Boston avec des souris, il y avait des souris qu'on stressait et d'autres qu'on ne stressait pas. Et on voyait que c'était beaucoup plus facile de déclencher une crise de migraine chez une souris migraineuse stressée que chez une souris non migraineuse, non stressée.
Bien donc, travailler sur le stress des migraineux, ça peut jouer et les améliorer.
Ça peut jouer, mais ce n'étant pas la cause, ça ne va pas régler le problème.
Qu'est-ce qu'on leur propose, par exemple, à Aline, aux migraineux? Je crois que vous avez fait un papier là-dessus.
Oui,
dans le Figaro
on
Santé.
On propose des thérapies qui sont non médicamenteuses.
Ouais.
Et qui tourne autour de la relaxation. Alors, ça peut être de la méditation, de la sophrologie, voire de l'hypnose. Mm-hmm. Toutes ces thérapies qui peuvent permettre de mettre un peu à distance son angoisse et son stress, et qui, comme vient de le dire le docteur, effectivement, ne vont pas soigner la cause, mais ça va permettre de mieux vivre. De mieux vivre sa pathologie, puisque sur une pathologie comme la migraine ou comme d'autres céphalées, c'est quand même du long terme.
Donc
il s'agit aussi, sans aller dans un monastère, mais de gérer sa maladie.
Et d'améliorer la qualité de vie.
Exactement, de savoir ce qui la déclenche, et donc d'éviter ce qui la déclenche. Quelqu'un tout à l'heure me disait, ah, moi c'est le chocolat. Bon, bah, voilà, c'est des choses, c'est des choses assez simples, mais ça doit se gérer.
Eh bien, merci à vous deux. Vous ne bougez pas. On va continuer cet entretien sur les solutions pour soulager les migraines et autres céphalées. Et justement, on va passer aux médicaments, d'autant qu'il y en a apparemment de nouveaux qui suscitent pas mal d'espoir pour les malades. On y revient dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali. Mélanie Gomez.
Merci d'écouter Europe 1 pour ce coup de projecteur sur les solutions pour en finir avec la migraine, les maux de tête. Plusieurs millions de Français souffrent de cette maladie neurologique. On fait le point toujours avec Aline Richard, rédactrice en chef du Figaro Santé, notre partenaire, dont le dernier numéro consacre un gros dossier à ce sujet. Puis avec nous également le docteur Jérôme Maouet, neurologue à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et puis vous avez un compte Insta aussi sur lequel il y a du contenu, justement des vidéos grand public, hein, c'est ça?
Oui, le compte doc.migraine où j'essaie de partager mes connaissance avec les patients qui souffrent et ceux qui s'y intéressent.
Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors, on va parler des solutions du côté des médicaments à présent. Aline Richard, la migraine existe depuis la nuit des temps. Et alors, pour l'anecdote, parce que j'ai trouvé ça rigolo dans le magazine, on voit qu'on ne l'a pas toujours traité avec des molécules chimiques. Autant des Égyptiens, déjà, on avait des solutions. Hein, mais lesquelles?
Alors, en fait, les Égyptiens avaient repéré cette pathologie. Ils l'appelaient le mal de la moitié de la tête. Enfin, je ne lis pas les hiéroglyphes, mais c'est ce que racontent les archéologues. Et alors, ils avaient des remèdes assez religieux et assez fondés sur la croyance, mais pourquoi pas. Ça peut tout à fait fonctionner. Des crocodiles, par exemple, des figurines de crocodiles sacrés en argile qu'on vous a posées sur la tête. Mm-hmm. Ou ça devait sentir quand même assez particulier. On prenait une tête de poisson-chat, on la faisait frire et on vous la posait sur le crâne pendant.
C'est plus qu'on utilise, je pense, à l'assistance
publique.
Non,
voilà, pas du tout, mais c'est aussi la preuve que ce n'est pas les ondes qui sont responsables de la migraine.
Mais par contre,
la
moitié de la tête, disaient les Égyptiens, c'est ça la migraine.
C'est pour ça que ça vient du hémicrania. Hein, donc, migraine, ça vient de l'hémicrania, la moitié du crâne. C'est très souvent le cas, mais ce n'est pas toujours le cas.
Parfois, on a mal sur les deux côtés.
On peut avoir mal sur les deux côtés, oui.
Et si on revient en 2023, Mélanie, parce que j'y crois pas trop à votre truc, moi, Aline, des Égyptiens, là.
Personne n'y croit, vous inquiétez pas.
Et puis l'odeur, tout ça, non. Oui, une anecdote, tout à fait. Est-ce que c'est normal qu'à chaque fois qu'on a mal à la tête, on se dit, tiens, je vais prendre du Doliprane, du Dafalgan, c'est notre premier réflexe? Et je crois pourtant que dans la migraine, ce n'est pas très efficace.
Alors, pour une céphalée de tension, un mal de tête classique, ça peut tout à fait aider. Et parfois, ça peut me passer spontanément. Pour la migraine, en général, il faut des traitements plus incisifs.
D'accord. Donc, par exemple, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Comment ils agissent, cette famille de médicaments ?
Alors, ben, on sait qu'il y a une inflammation qui n'est pas infectieuse, une inflammation qu'on appelle stérile, autour de la méninge. Et donc, c'est anti-inflammatoire.
Et alors, attendez, on a entendu parler aussi de médicaments qu'on appelle les triptans. Ils servent à quoi, cela ? C'est pour la crise ou c'est pour la prévention ?
Ce sont aussi des traitements de crise. Et là, c'est les vrais traitements de crise qui ont été vraiment développés pour traiter la migraine. Donc, ils sont ce qu'on appelle spécifiques. Et eux, ils agissent sur la crise. Si jamais vous avez mal au genou, vous pouvez le prendre, ça n'aidera pas pour le genou. Ça bloque le processus de la migraine. On pensait que c'était avec un mécanisme vasculaire, mais finalement, c'est aussi ça agit aussi au niveau des neurones.
Ceux-là, apparemment, ils sont arrivés donc, il y a une trentaine d'années. Ça a été une révolution quand ils ont été mis sur le marché, ces triptans. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces chez tous les patients ? On voit bien qu'on cherche encore d'autres traitements. Donc j'imagine que les triptans ne suffisent pas à soigner tout le monde.
C'est vrai qu'ils ne soulagent pas tous les patients et c'est vrai que par contre quand ils sont arrivés ils ont été une vraie délivrance. Malheureusement il avait fallu attendre 7 ans pour qu'ils soient remboursés en France. Maintenant ils sont là, ils aident beaucoup de patients mais il y en a encore qui souffrent et c'est pour ça qu'il y a de la recherche sur les autres traitements de crise.
Ça aide vite ça quand je prends un triptan si ça fonctionne chez moi. Je veux dire j'ai la crise qui commence, est-ce que je dois prendre ça tout de suite, attendre une heure, comment ça se passe
la migraine c'est comme le feu, il faut jeter tout de suite un énorme seau d'eau donc idéalement il faut prendre le traitement assez tôt. Alors attention, on en parlait tout à l'heure, prendre trop de médicaments peut aggraver les choses donc chez les gens qui ont beaucoup de crises, on peut pas donner ce conseil, mais en tout cas, traiter tôt. Et si on traite tôt, en général, dans la moitié, les gens sont soulagés dans les 2 heures. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde et c'est pour ça qu'il y a de la recherche.
Aline, on va prendre un cas très pratique. Vous avez un article dans le Figaro Santé qui s'intitule « Que faire en cas de crise ?» Il en ressort quoi ? C'est quoi la bonne marche à suivre, selon votre enquête ?
Alors, il y a plusieurs choses qui sont très simples. D'abord, la première, c'est qu'il ne faut pas attendre sans rien faire.
Comme disait le
docteur. Il ne faut pas rester passif, parce que ça ne passe jamais tout seul, sauf une petite céphalée de tension, mais sinon ça ne passe pas. Alors, aussi très classique, il faut se mettre au calme, dans l'obscurité, et se reposer, parce que le mouvement accroît le problème. Donc il faut, la lumière est bon. Après, ça dépend pas mal des gens. On nous a raconté que, par exemple, certaines personnes sont soulagées en se mettant un linge d'eau fraîche sur la tête, voire chaud. Ça doit dépendre
de chacun.
Et chacun doit aussi, justement, on disait tout à l'heure qu'il fallait gérer sa maladie.
Chacun doit trouver sa
parade. Et chacun doit y réfléchir. Et puis, bien sûr, quand cette crise elle est sévère, et même si elle est modérée, il faut passer à la case médicaments. Et là, effectivement, on l'a dit, pas trop traîner. Quoi. Idéalement, j'ai lu que c'est dans l'heure. Dans l'heure, voilà. On prend son médicament.
Docteur, tout à l'heure, dans le témoignage qu'on a eu, justement, de cette femme migraineuse, elle disait qu'elle avait testé, elle a énuméré un nombre de molécules assez impressionnant. C'est fréquent, ça, chez les migraineux, d'avoir à passer par plusieurs traitements avant de trouver le bon.
Donc là, elle parlait des traitements de fond, qui sont les traitements préventifs qui ont pour but d'espacer les crises. Et oui, malheureusement, en 2023, on n'a pas la pharmacogénétique. Bientôt, on pourra peut-être faire un test génétique qui détermine quel type de sous-migraine on a et quel traitement va être efficace. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Et donc, on est obligé d'essayer des traitements qui parfois marchent, parfois pas.
Aline, dans le magazine, vous dit quand même qu'il y a 5 questions que doit se poser un patient migraineux pour savoir si son traitement est efficace. C'est quoi ces questions-là ?
Alors, c'est un petit check. Je vais vous les lire. Donc, alors, la première question, c'est qu'il faut se demander donc, si le traitement de crise, une fois que vous l'avez pris, ça permet de reprendre ses activités. Ça, c'est la première chose. Après, si on peut compter sur ce médicament pour être soulagé dans les 2 heures. Pour la majorité des crises, il peut toujours arriver qu'il y en ait une qui soit particulièrement forte, mais pour la majorité. La troisième question, c'est de savoir si une seule dose, donc là c'est relatif à la dose, est suffisante pour être à peu près tranquille pendant 24 heures. La quatrième, c'est une question qui concerne tous les médicaments, est-ce que c'est bien toléré ou pas ?
Bien sûr.
Et puis la cinquième, c'est est-ce que grâce à ce traitement-là, je peux planifier mes activités sans avoir trop d'angoisse.
Voilà les 5 questions, les 5 bonnes questions à se poser.
Si ça marche,
docteur Maoué, d'ailleurs, on n'arrête pas de dire le comprimé à prendre assez vite quand on a une crise, etc. Mais en fait, je crois que tous les traitements contre la migraine, que ce soit la crise ou en prévention, ne sont pas forcément des comprimés à avaler. Il y a plusieurs formes de médicaments. Il y a même des sprays dans le nez, je crois, c'est ça ?
Donc pour le traitement de crise, il existe beaucoup de comprimés, mais en effet, il y a des triptans qui peuvent se respirer par le nez pour avoir une action encore plus rapide, voire même en injection. injection.
Oui, elle
que
nous
le patient
parlait de
soit
ça,
fait,
notre,
se fait elle-même.
Notre alors, témoin, non, c'est pas
alors,
ça.
Elle parlait de traitement de fond en injection, mais là, je parle encore de traitement de crise. Traitement de crise, il y a donc comprimé le nez et aussi en injection pour essayer d'arrêter une crise particulièrement sévère. On s'injecte soi-même,
à soi-même
un traitement pour arrêter la crise.
C'est facile et... à faire ça tout seul
quand ah oui,
on n'est pas
formé.
Ah oui,
c'est un stylo préparé.
Comme pour les diabétiques
voilà.
un peu,
exactement,
c'est ça.
Et ça, ça soulage
simple.
Immédiatement.
Et ça peut soulager immédiatement la crise. Ça a encore plus de répondeurs que les traitements par la bouche ou par le nez.
Et puis il y a les espoirs. Hein. On en parlait en préambule du corps médical qui repose depuis quelque temps sur d'autres médicaments, les anticorps dits monoclonaux. Comment ils fonctionnent, docteur, très simplement ? Sous quelle forme on peut les prendre ?
Alors, c'est vrai que donc en termes de traitement de fond, de traitement préventif, il existait des traitements classiques mais qui étaient détournés de leur indication principale. Des antidépresseurs, des antiépileptiques qu'on donnait à des gens pour la migraine alors qu'ils n'étaient ni déprimés ni épileptiques.
Et ça marchait, ça ?
Et ça marchait, après, avec des effets secondaires potentiels. Et puis sont arrivés les anticorps anti-CGRP, des traitements exprès prévus pour la migraine, puisque le CGRP véhicule la douleur dans la migraine. Et donc, c'est des nouveaux traitements en injection, soit sous-cutanée que le patient se fait lui-même, soit en intraveineux.
Et ça existe déjà, ça ?
Ça existe déjà, c'est dans tous les pays, c'est même en France. Mais malheureusement, en France, on est à la traîne par rapport à tous les autres pays, puisqu'ils ne sont pas remboursés.
C'est-à-dire, et ça coûte combien donc pour ces patients ?
Et ça coûte 250-270 euros par mois.
C'est énorme. Ah, 270 euros par mois ?
Voilà, et malheureusement, ils ne sont pas remboursés.
Ils le sont dans les autres pays ?
Ils le sont dans 24 pays d'Europe, oui.
Donc ça va peut-être changer quand même en France, non ? J'imagine que
la France
non.
a une autre vision des choses. Pour que la France le rembourse, il faut qu'on prouve que c'est mieux que ce qu'on a sur le marché pour le moment.
Et est-ce que
c'est
mieux
le cas, hein. C'est le cas dans la pratique clinique, je peux vous le dire, on le voit
je
tous
sais
les
que
jours.
Les médecins le disent,
et c'est ce qu'on vient d'entendre avec
c'est
cette patiente.
C'est beaucoup plus efficace.
Et puis il y a même une étude qui montre que c'est mieux que le topiramate, mais malheureusement... les décideurs, pour le moment, n'ont pas retenu cette étude.
Aline, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce
oui,
sujet ?
Oui, ce qu'il faut dire, et ce que nous, on a aussi défendu dans ce numéro du Figaro Santé, c'est qu'en fait, il ne faut pas, en matière de médicaments et de santé publique, les opinions et la courte vue n'est pas forcément positive, y compris financièrement parlant. Parce qu'effectivement, les anticorps monoclonaux, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le traitement des cancers, etc., etc., sont vraiment une voie thérapeutique d'avenir. Bon, le problème, c'est qu'ils sont chers.
Cher, oui.
Ils sont chers, mais ne pas vouloir les rembourser sous prétexte, d'ailleurs, complètement fallacieux, qu'ils sont d'une même efficacité de ce qu'il y avait avant, ce qui n'est à l'évidence
pas vrai.
À l'évidence pas vrai. C'est vraiment une courte vue, parce que on l'a bien vu et on en a parlé tout au long de votre émission. La migraine, ça coûte cher à la collectivité, ça coûte cher aux individus qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas agir. Donc ça coûte cher à la collectivité. Donc une opinion comme ça de se dire on va pas rembourser.
C'est à court terme, c'est une vision à court terme.
C'est pas très malin.
On aimerait
que
celui qui s'occupe du tiroir des arrêts de travail s'occupe aussi des remboursements des médicaments. Il aurait vite compris.
Il doit pas être migraineux, autrement il aurait remboursé.
Probablement.
Là vous œuvrez pour que ces médicaments soient remboursés. Il y a tout un collectif quand même.
On se bat avec la Société française d'études des migraines et céphalées et tous les neurologues français. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas été entendu.
Bon,
jusqu'à
cette émission,
Mélanie.
Encore passé dans cette émission sur Europe 1. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur la façon de mieux prendre en charge et traiter les migraines ou les maux de tête. On a vu que les solutions sont nombreuses et pour davantage d'infos, je ne peux que vous recommander le dernier numéro du Figaro Santé sur le sujet. Il est déjà en kiosque. Julia, on passe à quoi à présent ?
Eh bien, dans quelques toutes petites minutes, les bienfaiteurs d'Europe 1 vont arriver dans ce studio. Notre coach Hakim va nous apprendre aujourd'hui à bien nous échauffer. Et oui, une fois qu'on sera bien chaud, on pourra justement passer à la chronique de Perla Servan-Schreiber. Alors, il n'y a pas de recette ce matin, on ne va rien manger, mais des astuces en tout cas très pratiques. Elle va nous parler des quelques ustensiles vraiment indispensables en cuisine, selon elle, quand on veut se débrouiller comme une chef au fourneau. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission qui fait du bien à notre quotidien. Et nous sommes avec vous jusqu'à midi. On passe à présent aux astuces, au conseil des bienfaiteurs d'Europe 1. Perla Servan-Schreiber, bonjour.
Bonjour.
Bonjour
Perla,
mes amis. Pas de recette de cuisine aujourd'hui. Vous non. allez nous aider à quoi alors ?
Grâce à vous, vous m'avez suggéré un sujet auquel j'aurais jamais pensé, qui est fondamental. C'est quels ustensiles utiliser ? Aujourd'hui, on ne va parler que des poêles. parce que j'ai pas beaucoup de temps.
Eh bien, alors, vous savez quoi? En plus, Julia, elle a plein de poils. Elle les utilise jamais, mais elle en a plein.
Mais j'en ai plein, mais pourrie, à mon avis.
Ah, vous pensez que vous n'avez pas la bonne. Ah, oui,
j'ai pas la bonne poil, c'est ça le problème.
Ouais, voilà. Moi, j'aime bien ces conseils-là. On vous retrouve dans quelques minutes, même pas 5 minutes, Perla. Juste le temps de s'étirer un peu, hein, de s'échauffer comme il faut avec Hakim. On va pas trop souffrir aujourd'hui, ça va?
Non, on va pas trop souffrir, mais on va essayer de prendre conscience que l'échauffement, moi, c'est après, ultra là, important. Eh bien, on va voir. Vous allez nous parler de votre échauffement, justement. Moi, je voulais justement vous sensibiliser sur l'importance de l'échauffement comme facteur de performance et pour limiter les blessures aussi.
D'accord. Moi, j'en fais pas d'échauffement.
Moi non plus, j'y vais à sec.
Et bien justement, pour beaucoup, l'échauffement, c'est vraiment la partie que l'on n'aime pas faire, hein, et qu'on préfère éviter pour passer directement aux exercices. Mais si je vous disais qu'un échauffement de 15 petites minutes...
Mais c'est énorme, c'est long.
Bon, 15 petites minutes, c'est rien.
Sur une séance d'une heure, c'est énorme.
Ouais. Alors, déjà, tout dépend, bien évidemment. Sport, tout, oui, mais vous pouvez intégrer l'échauffement comme partie intégrante,
hein,
exactement, de votre séance. Ça permettra vraiment considérablement d'améliorer votre performance, limiter le risque de blessure. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi l'échauffement a 4 vertus.
Ok, d'accord. Quatre vertus.
Allez, la première vertu, c'est qu'on ne fait pas tout de suite du sport. On retarde l'échéance.
Non. Prenez-le comme vraiment un moment où vous allez rentrer dans votre séance. La première vertu, c'est que l'échauffement permet de faire monter le rythme cardiaque pour préparer le cœur à l'effort.
Si mais tranquillement,
allez...
quoi.
Voilà, c'est ça. Si vous y allez trop d'un coup, le cœur ne va pas comprendre, ça va palpiter tout d'un coup, le sang ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Et bref, ça ne va pas être la meilleure mise en situation. Deuxième vertu, il permet de dilater nos vaisseaux sanguins pour permettre à nos organes de recevoir de l'oxygène. Vous le savez, l'oxygène arrive par le sang, forcément, et le sang passe par des petits tuyaux. C'est simple, si le tuyau est plus large et dilaté, ça permet de ramener plus d'oxygène. Donc,
mais limite, on risque l'accident si on ne s'échauffe pas.
Alors, vous ne risquez pas l'accident, mais si vous y allez de manière brutale sur un exercice spontané, qu'en plus de ça, vous n'avez pas l'habitude de faire du sport,
oui,
vous pouvez ressentir quelques palpitations.
Surtout, on est très essoufflé tout de suite.
Tout de
donc
suite,
on
exactement.
C'est pour ça que je suis essoufflée, moi.
C'est exactement ça. Vous allez mais vous cramer, vous allez penser que ça y est, vous êtes déjà fatigué, que la séance est morte, alors qu'il fallait juste... commencer par un petit échauffement.
Doucement. C'est pour les articulations aussi que c'est important.
Exactement.
Hein.
Le cou, les poignets, les genoux, les chevilles, c'est des parties du corps que, au fait, on sollicite constamment. Et on n'a pas l'habitude forcément de les préparer. Or, quelques mouvements d'assouplissement, de rotation, nous permettra de les préserver et de les protéger, effectivement. Et le dernier, moi, c'est mon préféré, c'est qu'au fait, l'échauffement vous permet de rentrer psychologiquement dans la séance.
C'est la méditation avant sport.
Voilà, c'est ça.
Sport.
Ouais. Voilà, je visualise ma séance, je vais faire ça. Mon programme, c'est tel exercice. Vous êtes concentré, focus, et ça vous permet de mieux aborder la séance.
Et Hakim, est-ce que l'échauffement limite vraiment le risque de blessure? Parce qu'on en entend souvent parler de ça.
Et bien justement, en fait, on a posé la question à Sébastien Rattel, qui est enseignant-chercheur en physiologie de l'exercice à l'université de Clermont-Auvergne. Et en fait, il nous répond, entre guillemets, c'est probablement le cas car l'élévation de la température des muscles permet d'abaisser leur raideur et ainsi des tissus. Il n'est pas conseillé de faire du sport à froid sans échauffement. Il semble y avoir plus d'élongation musculaire, d'entorse. Les ligaments peuvent être touchés. Donc en fait, la période d'échauffement, c'est comme si pour un moteur, vous huilez un petit peu le moteur. Et d'ailleurs, quand je dis huiler, il y a vraiment, sans être trop technique, ce liquide synovial qu'on appelle liquide synovial qui va tout simplement dérouiller un petit peu, favoriser les jointures et ça permet au corps de se chauffer tout simplement.
Bon, moi, vous m'avez convaincu, ça y est. Alors, comment j'huile tout ça? Comment je m'échauffe bien?
Allez, peu importe votre séance, parce que bien évidemment, on n'aborde pas une séance de, je vous dis une bêtise, de football, de basket, de course de la même manière, mais je vais vous donner un petit circuit à faire et qui correspondra à tous les types de séances. 30 secondes par exercice. Le premier, petit tour, a vocation à échauffer vos articulations. Donc, rotation de la tête, 30 secondes, rotation des poignets, 30 secondes, des chevilles et des genoux. Mmh. Vous faites trois fois ce petit circuit.
Déjà, 30 secondes à chaque fois.
Exactement.
Tête, poignet, cheville, genou, trois fois le tour, enfin des petits tours, des petites rotations.
Et là, c'est ce que j'appelle ensuite la mise en chauffe. Vous allez commencer par des jumping jacks.
Ah là, on est dans le sport là déjà.
Bon, on est dans le sport, mais c'est 30 secondes.
D'accord.
Et vous y allez vraiment modérément.
Jumping jack, c'est le truc où
moi je sais pas ce que c'est.
Alors, c'est l'exercice, j'allais dire, phare des militaires où on va sauter, écarter les bras, écarter les jambes. Écarter les bras, écarter les jambes. Exactement. Mélanie nous fait une parfaite démonstration.
Très bien, très bien.
30 secondes de montée de genoux et pas besoin d'y aller explosif. Hein. On est sur l'échauffement. Montée de genoux,
on dérouille.
Fesses,
talons fesses, okay.
Exactement. Mm-hmm. Les fast steps, ce que j'appelle les fast steps, c'est des une multitude de petits pas. Mmh. Voilà, exactement. Des petits pas, des petits pas.
On fait semblant courir très vite.
Exactement, sur place. Et vous y allez un petit peu plus rapide. Là, pourquoi ? Parce que ça va préparer justement le cœur, comme je vous l'ai dit. Ensuite, ce que j'appelle des shoulder taps, vous mettez en position de gainage et vous allez toucher une épaule gauche, une épaule droite, une épaule gauche, position de gainage. Là, forcément, vos poignets vont être sollicités, les épaules un petit peu, donc ça prépare encore une fois. Et les mountain climbers, là, vous allez rester en position de gainage. Vous ramenez un genou à la poitrine, puis le deuxième. Vous pouvez y mettre du rythme un petit peu. Ça préchauffe aussi les chevilles. Là, vous faites ça trois fois.
Trois fois 30 secondes à chaque fois.
Exactement.
Pour moi, ce serait presque une séance de sport.
Mais pour moi, c'est une séance.
Non. Mélanie, je vous ai suivi globalement sur vos plans de séance. Elles sont beaucoup plus dures que ce que je viens de vous proposer.
Mais attendez, vous connaissez mes plans de séance. Donc moi, je ne le cache pas. Je fais à peu près, en général, je vais une heure à la salle. Je fais une demi-heure de cardio, une demi-heure de muscu, on va dire. Est-ce que justement, je fais pas grand chose à la salle, on va dire, je fais un peu de vélo, du tapis, et puis je vais sur différents appareils musclés, soit le haut, soit le bas du corps, etc. Mais là, j'ai besoin de m'échauffer pour faire ça.
Ouais, bien sûr.
Oui. Je fais pas du foot, je fais pas du football.
Non. Ce que je veux dire. Au fait, vraiment, ça n'a. C'est-à-dire que peu importe la partie du corps que vous allez solliciter, admettons que vous arrivez justement dans votre salle de sport et que vous avez envie de travailler le dos. Vous allez commencer à saisir cette grande barre métallique, vous allez tirer. Rien que ce mouvement va activer les triceps, le dos, les épaules, la nuque.
C'est bien les avoir échauffés quand même avant.
Exactement. C'est là où la petite blessure peut arriver sinon.
Ouais. Quand on était en cours de gym, quand on était petit, ils nous faisaient toujours les échauffements.
Bien sûr,
on pensait que ça servait à rien. Moi, mais je le faisais.
Parfois, vous couriez dans le préau et vous essayez de passer le copain, mais c'était un échauffement, c'était une préparation, bien sûr.
On est bien échauffé, hein. merci à Kim pour vos conseils très pratiques. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à Mélanie, mais avant cela, nous allons passer à Perla Servan-Schreiber. Pas de soupe, pas de gratin, pas de gâteau, si on n'a pas les bons ustensiles. C'est comme avoir les bons outils, il faut toujours avoir le bon matos, comme on dit. Alors ça commence par quoi ?
Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux poils, d'accord ?
Okay.
Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une poils.
Ah, c'est génial parce que les miennes, elles accrochent toutes, alors j'ai hâte d'en savoir plus.
Absolument. Alors d'abord, il faut savoir que tout comme le vase fait le bouquet, c'est pas vos fleurs qui font un joli bouquet, c'est votre vase avec une seule fleur. Si vous avez le vase adapté, vous avez un bouquet sublime. Mmh. Et si la malheureuse tulipe flotte à l'intérieur d'un grand vase, là, ça a l'air de rien du tout.
D'accord.
Donc, tout comme le vase fait le bouquet, c'est la poêle qui fait la bonne omelette.
C'est pour ça, Julia, vous l'avez toujours raté. C'est parce que vous n'aviez pas la bonne poêle.
Mais je suis sûre. Elle est pourrie, ma poêle. Déjà, elle est toute rayée. C'est normal, ça ?
Ah non, pas du tout. Voilà. Mais pas du tout. Alors, justement, et je vais vous donner le conseil essentiel pour déterminer la cuisson juste et donc la saveur et la santé en même temps, il faut savoir. Hein. Donc, pour les crêpes, tout le monde sait qu'il faut une poêle à part.
Poêle à crêpes.
Bon,
ça,
alors
c'est
celle-là,
bon.
On n'utilise que les crêpes. Si on ne la gratte pas avec une fourchette, comme j'ai déjà vu faire d'ailleurs,
on la garde longtemps. Hein.
On devrait la garder longtemps. Mmh. D'ailleurs, on ne fait pas des crêpes tous les jours. D'accord ?
Moi, j'en fais tous les mois.
C'est bientôt la chaleur, dites-moi.
Eh bien, tous les mois. Hein,
Ce week-end, full crêpe.
Il y a une poêle. Aujourd'hui, nous le savons, il y a des progrès. Quelle que soit la poêle que vous achetez, il faut absolument n'acheter que celle qui est recouverte de céramique. Et exclusivement de cet alliage qui garantit votre santé et le plaisir que rien n'attache. Jamais.
Parce que c'est quoi, quand il n'y a pas de céramique, c'est quoi, on peut trouver
téflon,
des poêles
à... le téflon.
Sinon, c'est le téflon.
Et ça, c'est pas bien.
D'accord. Alors, je ne dirai pas de mal de personne, mais je vais dire du bien de ce qu'il faut.
Voilà, donc, d'accord. Ne parlons pas de monsieur téflon. Laissez monsieur téflon tranquille.
On va dire ça. On va dire ça comme ça. Donc, vos poêles, ce matériau, la céramique, il est entièrement naturel. Il est sûr et il est idéal parce qu'il ne libère pas, je répète, de substances nocives, ni à la pose en usine, parce que c'est un recouvrement, hein. Il y a un alliage d'aluminium en dessous, et on recouvre de céramique pour ne pas que ça attache et que ça cuise parfaitement. Et là, les températures en usine montent à plus de 300. Donc là, c'est le seul recouvrement qui ne se décompose pas. D'accord. Ok ? Ni quand il chauffe en usine, ni quand vous le chauffez chez vous.
Okay.
Parce que généralement, vous êtes très pressé et hop, on tourne le bouton à bloc.
Voilà.
Et là, on brûle le revêtement qui dégage des gaz nocifs et qui trempe votre steak ou votre omelette de cette nocivité. Donc, il faut vraiment le savoir.
Ouais. Je le sais, mais je ne le fais pas.
L'autre avantage de la céramique, c'est que c'est durable. Ça ne brûle pas, je viens de le dire. Ça chauffe très vite, économie d'énergie.
C'est important aussi en ce moment.
La poêle atteint, que vous soyez sur le gaz ou en induction ou en halogène, ça monte très très vite. Et c'est recyclable, ce qui n'est pas rien. et c'est résistant.
Et dites-moi, donc, vous avez des exemples à nous donner qu'on en achète pour voir si c'est dans nos moyens aussi. Ça doit coûter bonbon, ça.
Oui, ça, je peux vous dire. Alors, vous en trouvez à partir... Il y en a probablement encore moins cher, mais dans les bonnes qualités que moi, j'ai testées, vous avez une marque qui s'appelle Cocut. J'ai le droit de dire les marques.
Cocut, bien sûr. Bon. Ouais.
C2OKUT. D'accord. Donc là, la basique, et qui est formidable, à 59,90€, on est bon.
Mais c'est un bon investissement. Hein.
Mais elle est très durable. Mmh. Très, très durable. Si vous la traitez comme je viens de vous, comme je vais vous expliquer. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à 97,90€, qui est la plus inouïe. Elle s'appelle la Temple du Japon.
Ça, c'est la Cocut, mais il y a une autre marque aussi. Hein. Je crois une deuxième marque que vous vouliez donner. Evergreen Dobec, c'est ça?
Alors, il y a Evergreen Dobec, absolument, hein, qui est garantie à vie. Et celle-là... Elles sont essentiellement blanches, mais il y a des couleurs maintenant.
Ah, c'est chouette blanc.
Très jaune. C'est bien blanc.
C'est sympa, voilà. Ça. Et comment on les entretient, ces poils qui coûtent cher, justement,
pour qu'elles durent dans le temps ? On les entretient de la manière suivante. D'abord, on peut les mettre au lave-vaisselle sans problème.
Yes !
Ok. Je vous conseille de ne pas les mettre au lave-vaisselle tout le temps.
On peut, mais non.
C'est un yes prématuré.
Mais pas tout le temps. Vous offrez une brosse à vaisselle, si vous n'en avez déjà, avec un manche en bois, c'est extrêmement agréable. Ça coûte 4,20€. Et vous la passez sous le robinet d'eau chaude avec la poêle, sans lessive.
Ah, on pas de juste
alors, je sais qu'on va me dire, oh là là, mais le gras, le truc, l'odeur... Oh. Pas du tout. Donc si vous saviez le nombre de choses que vous pouvez laver juste avec de l'eau chaude et une brosse, vous verrez... Comment
donc, t'as laissé juste un film gras, mais c'est pas sale, quoi, en fait, c'est
d'abord,
ça.
D'abord, ça peut laisser éventuellement un petit film gras, mais de toute façon, vous remettez une goutte de gras la fois d'après, ouais, donc ça. Je vois pas où est le problème, d'accord. Et puis, le gras ne pourrit pas, hein, entre deux cuissons, hein, on n'a jamais vu ça.
Et en fait, Perla, on n'a plus beaucoup de temps. Comment on les utilise, ces poils? Moi, elle est toujours trop chaude ou pas assez chaude, alors qu'est-ce que vous me conseillez?
Là, vous pouvez ne jamais forcer à fond. Donc, juste un petit peu moins que le à fond pour chauffer. Mm-hmm. Vous restez devant, vous la chauffez à sec. Là, vous pouvez parfaitement vous dispenser de matière grasse. Mais si vous voulez, vous mettez une goutte d'huile. Hein, okay. Une goutte, d'accord? Et là, vous déposez votre steak ou votre omelette ou votre filet de poisson, d'accord? Et vous n'allez pas courir répondre au téléphone portable qui sonne. Vous restez là, planté, vous ne bougez pas.
Et c'est quoi le hack du jour, Perla?
Alors, le hack du jour, pour conserver ces poils qui sont quand même un petit investissement, eh bien, vous allez glisser un protège-poils en feutre entre la poêle et la casserole qui est dessus, ou l'autre machin qui est dessus, n'importe quoi.
Ça évite quoi, les rayures?
Ça évite de les rayer, exactement. Et en plus, c'est très joli. Et ça coûte, je crois que ça coûte 4,20€ les 12. Donc ça va.
Bon, qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine, maintenant qu'on a les bons ustensiles?
Et bien, maintenant que vous avez la poêle, je vais vous donner une recette à faire à la poêle, puisque vous allez en acheter une. Le poisson blanc au curcuma et au lait.
Oh, je savais pas que ça se faisait à la poêle, j'aurais mis ça au four, moi.
Eh
ben, vous voyez, j'ai hâte d'acheter ma petite poêle et d'entendre votre recette de la semaine prochaine. Merci Perla pour tous ces conseils. Et puis voilà, vous l'entendez, ce magazine est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Europe 1. On se retrouve bien sûr lundi à la même heure dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre sujet du jour?
Alors lundi, on va vous proposer à tous de devenir des leaders. Car vous savez quoi? On ne naît pas leader, on le devient. Ça va vous plaire ça, Hakim, hein, pour nous guider dans cette voie. Le général Vincent Desportes sera avec nous, fort de sa double expérience de soldat et de conseiller en entreprise. Il va nous transmettre tous ses conseils pour prendre le leadership de nos vies.
Et bien voilà, maintenant place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme, Romain?
Bonjour Julia, bonjour à tous dans Europe Midi. Beaucoup de sujets encore aujourd'hui. On va parler de ce ballon espion chinois. Mais à quoi ça sert, un ballon espion? Ballon espion chinois au-dessus des États-Unis. Elle nous dit Washington, on sera avec le général Clermont. On va parler également du tarif des consultations médicales. 25€ aujourd'hui, la Sécurité sociale a entendu les médecins, a entendu la colère des médecins qui veulent augmenter le tarif de la consultation. La Sécu leur répond, très bien, on va l'augmenter d'1,50€. Non mais c'est l'aumône, disent les médecins. On va en parler également dans Europe Midi. Et puis le vendredi thématique, la France des Lumières dans la pénombre, les jeunes, les 18-24 ans, 16% des 18-24 ans croient que la Terre est plate. Bah oui, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Donc on trouve tout et beaucoup de n'importe quoi. On en parle également dans Europe Midi. À tout de suite.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.